L'Infomédia prend 3 jours d'avance. Samedi, le 11 septembre, cela fera 20 ans que des avions de ligne se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Les chaînes de télévision et les radios à travers le monde bousculent ce jour-là leur programmation. Et c'est une première, et ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, le Pentagone est frappé lui aussi, puis un autre avion s'écrase en Pennsylvanie. 4 vols détournés et un total de presque 3000 morts. Ces attentats revendiqués par Al-Qaïda ont changé la face du monde et de l'information. Récit avec Julien Belvert, bonjour.
Salut Philippe.
Vous êtes journaliste à Quotidien et ce soir sur TMC, vous proposez un prime exceptionnel que vous signez, 21h Média, 11 septembre 2001, document qui retrace cette terrible journée à travers les médias du monde entier. Pour commencer, Julien Belvert, vous faisiez quoi à cet instant-là, le 11 septembre 2001? Tout le monde se souvient où il était, vous étiez où?
Oui, tout le monde se souvient où il était. Alors moi, j'avais 20 ans, donc ouais. J'étais en cours, j'étais encore étudiant, j'étais en Montpellier. Et très vite, on a su qu'il se passait ça aux États-Unis. Alors à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les push qu'on recevait toutes les 2-3 minutes. Donc c'est un professeur qui nous informe. Et il y avait une télévision dans cette école, donc on s'est tous jetés devant la télé. Et ce jour-là, je finissais les cours assez tôt, donc vers 15h à peu près. Donc là, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi, je me suis installé dans le canapé et je n'ai pas décroché de ma télé jusqu'à minuit.
Pareil, peut-être moi c'est 1h du matin, mais pareil, on était tous en état de sidération. Exactement. En passant d'une chaîne à l'autre. Vous avez retrouvé les archives de l'époque, ça, évidemment, beaucoup de gens l'ont fait ou vont le faire, parce que le 11 septembre, ce sera samedi, la date anniversaire. Vous avez également interrogé des journalistes qui ont couvert ce 11 septembre, qui étaient à l'antenne, Élise Lucet, David Pujadas était sur LCI, Thomas Legrand qui était chez nos confrères de RTL à l'époque. Maintenant, absolument, il est sur Inter, Laurent Saïm, Michel Moutot. Est-ce qu'ils ont été faciles à convaincre? Déjà, une toute petite question. Il y a un télescopage avec les visages d'il y a 20 ans.
Oui, c'est ça qui est assez rigolo, parce qu'aujourd'hui, ouais, David Pujadas est sur LCI. Il était sur LCI avant d'être sur France 2 à l'époque où il présente l'édition spéciale. Élise Lucet, évidemment, à la tête des émissions d'investigation de France 2. Après, il y a Michel Moutot. Alors, Michel Moutot, on le connaît un petit peu moins.
Moi, je ne le connaissais pas. Voilà. Je l'ai appris grâce à vous.
Mais il a un rôle hyper important, parce que c'est lui qui rédige la première dépêche AFP qui annonce qu'un premier avion percute la première tour. C'est lui qui la rédige, et puis évidemment il va rédiger des dizaines et des dizaines de dépêches pendant plusieurs semaines. Et puis il y a Thomas Legrand aussi qui était à l'époque reporter sur RTL et qui était surtout à l'époque aux États-Unis. Il venait d'arriver aux États-Unis pour prendre ce poste. Il se balade dans la rue, il entend un énorme bruit, il lève la tête et il se rend compte qu'un avion a percuté la tour. Et 6 minutes plus tard, il est en direct sur RTL pour son premier flash.
Là, c'est une première. Les radios ont été les plus rapides, mais chacun, évidemment, a en tête les images de la télévision. La télévision, c'est de l'image, n'apprend rien à personne. À l'époque, le 11 septembre 2001, il n'y a en France que 2 chaînes d'infos continues, LCI et iTélé. Comment se fait-il que les médias aient pris l'antenne aussi vite? C'était inédit.
Oui, c'était inédit. Et puis le paysage médiatique est très différent. Il y a 20 ans, en effet, vous l'avez dit, il n'y a que 2 chaînes d'information. LCI qui existe depuis pas mal de temps, iTélé qui est là depuis seulement 2 ans. Et c'est LCI qui, la première, va prendre l'antenne, puisqu'elle reçoit, comme toutes les rédactions, des images des États-Unis. On a des flux live des chaînes d'information américaines. Elle se rend compte que une des 2 tours est touchée, qu'il y a de la fumée qui sort. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, si c'est un avion de tourisme, si c'est un gros porteur. Donc LCI prend l'antenne avec 0 information. Ils brodent pendant plusieurs minutes. Très vite, le deuxième avion arrive. Donc là, ils se rendent compte assez vite que ce n'est pas un accident, mais que c'est un attentat. Et très vite, TF1, ce jour-là, va comprendre que ce qui se passe est absolument énorme. Et donc, ils vont récupérer le flux de LCI avant de mettre en place leur propre édition spéciale. Puisqu'à l'époque, les éditions spéciales de ce type-là, ça n'existe pas et personne ne sait vraiment les faire.
La correspondante à New York d'iTélé, c'est Laurence Haïm. Il n'y a aucune image d'elle à l'époque. Comment se fait-il? Pourquoi on ne les voit pas?
Alors, on aurait adoré les montrer, les retrouver. Ça a été assez facile pour France Télévisions, pour TF1, parce que tout ça est archivé à l'INA. Mmh. En revanche, pour Canal et pour iTélé, ces images ont disparu. En fait, ces images n'ont pas été stockées par Canal.
Ah, vraiment?
Voilà.
Ah, donc, je me suis dit, peut-être ils ne veulent pas les donner.
Non,
Yann Barthès était sur Canal+, il est passé sur le groupe
tout.
TF1, peut-être. C'est un
on
petit,
les aurait achetés. On les aurait achetés.
D'accord.
On les aurait achetés.
Parce que vous avez retrouvé les guignols du lendemain que je ne vais pas dévoiler ici.
Absolument. Guignol, programme un peu particulier, qui lui, pour le coup, était archivé. En revanche, les éditions spéciales de Canal n'existent plus. C'est assez dommage parce que Laurence Haïm a fait une journée quand même assez dingue ce jour-là sur Canal. Mais bon, elle est dans le documentaire et elle nous raconte son 11 septembre.
Son 11 septembre est absolument phénoménal parce que ça commence par un presque début d'histoire d'amour qui n'aura pas lieu. On l'a dit, la radio a été le média le plus rapide. Le correspondant français d'RTL à l'époque à New York, c'est Thomas Legrand. Il prend l'antenne avant tout le monde et il s'exprime justement à ce sujet. Là, c'est une interview faite très récemment par vos soins.
Et vous savez, c'est compliqué de garder son calme. J'ai le sentiment d'avoir bafouillé, de pas avoir pas avoir été à la hauteur de l'événement. Est-ce qu'on peut être à la hauteur de l'événement, de cet événement-là? Je sais pas.
L'événement de temps, chacun le construit dans sa tête. Aux États-Unis, les morning shows, qui sont souvent des émissions de très conviviales, très joyeuses, changent également leur conducteur, évidemment. Ce qui surprendra tout le monde, c'est le crash du deuxième avion. Racontez ce qui se passe à ce moment-là.
Bah, le crash du deuxième avion.
Il le voit, je vais résumer ce qu'il m'a rappelé. Il le découvre et il n'y croit pas alors qu'il le découvre.
Exactement. Alors aux États-Unis, en fait, il y a deux situations. Aux États-Unis, ils le vivent vraiment en direct, c'est-à-dire que tous les networks américains sont évidemment branchés avec cette caméra fixe en fait sur les deux tours. Au départ, ils croient un accident pour le premier avion, et quand ils voient le deuxième avion en direct, les images sont assez dingues. En fait, c'est pas vraiment les images. Les images, oui, évidemment, mais ce sont les commentaires des journalistes qui sont totalement hallucinés de ce qu'ils découvrent. Ça va durer de longues et de longues minutes. Les commentaires des journalistes à l'époque sont vraiment dingue. Et puis évidemment, en France, on voit les choses différemment parce que on commente tellement le premier avion que parfois on se rend plus compte de ce qui se passe, et notamment sur TF1 par exemple. Ouais. Le deuxième avion,
on le voit pas en direct.
Voilà, on le voit pas en direct.
Ils ont lancé un autre sujet.
Ils ont lancé un autre sujet, un autre magnéto. Donc ils vont le diffuser en différé. Et ils sont tout aussi évidemment choqués par ce qu'ils voient.
Et là où c'est complètement dingue, c'est que vous racontez que ils n'osent pas décrire ce qu'ils voient, notamment par exemple l'effondrement des tours. Tout le monde voit que la tour s'effondre, et cette image est tellement sidérante, on le voit.
Ça, c'est PPDA sur TF1.
Oui.
Ça, c'est PPDA sur TF1.
Ils n'osent pas le dire, ils attendent la confirmation.
En fait, ils voient l'effondrement des tours en direct, donc ils voient les mêmes images que les téléspectateurs,
ouais.
Ça se passe sous ses yeux, mais en fait, ils ne s'en rendent pas compte. C'est tellement dingue qu'il attend d'avoir une dépêche AFP qu'il reprend à l'antenne au conditionnel pour dire que la tour s'est effondrée, alors qu'elle s'est vraiment effondrée depuis quelques minutes.
Justement, vous avez retrouvé le correspondant de l'AFP de l'époque. Voici ce qu'il dit, voici la manière dont il a officialisé l'effondrement de la première tour.
Nous informons le monde entier, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça aussi, il faut toujours faire l'équilibre entre la rapidité, mais être sûr de ce qu'on envoie. On vérifie pas l'AFP. Donc, si c'est faux, c'est pour nous. Nous, depuis notre bureau qui est à peu près au centre de Manhattan, on n'a pas une vue directe sur les tours. Donc tout ce que je raconte à ce moment-là, je le regarde à la télé, en gros comme le reste du monde.
Responsabilité particulière des journalistes, selon vous, dans un moment comme celui-ci?
Responsabilité absolument énorme. Mais en même temps, ils ont à peu près les mêmes informations que les téléspectateurs. C'est-à-dire que tout le monde est branché sur les mêmes images, sur les mêmes antennes. Et ça va être très difficile pour eux de savoir, d'avoir des informations de plus, de savoir qui se cache derrière. Bon, très vite, le nom d'Oussama Ben Laden va arriver dans les médias et sera repris par les médias français. Mais c'est très compliqué parce qu'à l'époque, il faut s'y remettre. Hein, 20 ans en arrière, il y a beaucoup moins de moyens d'information qu'aujourd'hui. Les liaisons internationales sont un peu compliquées. Les dépêches AFP, ok, elles racontent ce qui se passe, mais elles vont pas forcément en profondeur. C'est très compliqué pour les journalistes de tenir l'antenne. Et malgré cette difficulté, ils vont arriver à le faire pendant des heures et des heures, jusqu'à minuit, le soir même.
Et ils avaient été échaudés par la guerre du Golfe, c'était trop jeune pour avoir connu ça, on leur avait reproché aux journalistes de parler sans savoir. Cette fois-ci, ils ont pris beaucoup de précautions, ils ont eu raison. Julien Belvert avec nous, Culture Média continue.
Philippe Vin.
En compagnie de Julien Belvert, journaliste média dans l'émission Quotidien, il présente, c'est un one-shot comme on dit, 21h Média le 11 septembre 2001, documentaire autour des médias entre le 11 et le 12 septembre 2001, comment ils ont pris l'événement, comment ils l'ont transmis, comment ils l'ont analysé, quand ils l'ont analysé, et c'est ce soir sur TMC. On voit les avions qui survolent les États-Unis qui doivent atterrir au plus vite, et les chaînes américaines comme CNN se mettent carrément à diffuser un compteur d'avions.
Oui, ça c'est Michel Moutot qui nous raconte ça. En fait, ce jour-là, évidemment, tous les avions sont appelés à se poser. Sur tout le territoire des États-Unis, ça paraît, enfin, c'est complètement dingue. Et donc, CNN, en fait, tous les Américains ont peur parce que personne ne sait si un autre avion va percuter la Maison-Blanche, une autre tour. Et donc, tous les avions sont appelés à se poser. Et donc, CNN met en place ce jour-là le compteur d'avions dans le ciel jusqu'au moment où il n'y en a plus, jusqu'au moment où la menace pourrait disparaître.
Et ce que j'ai découvert grâce à votre documentaire, et pourtant on la connaît ici, Laurence Haïm a pris le dernier avion qui s'est posé.
Oui, c'est ça qui est assez dingue, c'est que Laurence Haïm, le matin du 11 septembre 2001, elle est dans un avion, elle s'apprête à atterrir à Newark, un aéroport près de New York, et donc au moment d'atterrir, l'avion remet les gaz parce qu'il ne peut plus, atterrir sur cet aéroport, et quelques minutes avant, elle voit le premier avion qui percute la première tour au travers de l'hublot. Et ça nous le raconte de manière assez précise ce soir.
Alors, on ne va pas revenir sur le procès qui a été fait à tort ou à raison à David Pujadas. À l'époque, ça fait 2 ou 3 semaines qu'il présente le 20h.
Il vient d'arriver au 20h de France 2.
Ouais. De France 2, alors qu'il était auparavant sur LCI. Il est en train de voir les images. Il se trouve que ce jour-là, il y a une équipe de Plus Clair, l'émission média de Canal+, qui le suit, raconter ce qu'on voit. On le voit dans les bureaux.
Bah, on le voit en fait découvrir la première image de la première tour. Et David Pujadas a cette réaction. Il dit waouh, génial, en voyant ces images-là. Et évidemment, on lui a beaucoup reproché ces deux mots. Bon, il s'est longuement expliqué auparavant. Il revient aussi là-dessus ce soir dans l'émission.
Oui, et il s'en explique très très élégamment dans votre émission. Et alors, vous dites, enfin plutôt les journalistes comprennent au moment de l'effondrement que plus rien ne sera jamais comme avant. Et ils ont également conscience de vivre un moment d'histoire et ce qui fait naître en eux une certaine jubilation. Écoutez.
Quand vous êtes journaliste, vous êtes partagé entre, évidemment, l'effroi de voir ce que vous voyez, mais aussi le fait, une espèce de jubilation d'être là. Et moi, j'ai aucune honte à dire ça, je l'assume complètement. C'est pas une histoire que vous voulez rater.
Bien sûr, il y a une excitation journalistique, elle est même culpabilisante. Il y a, c'est moi qui j'y suis, tous les autres sont à Washington. Moi, j'y suis, je suis au cœur et on doit pas être nombreux.
J'aurais vraiment pas aimé être en vacances ce jour-là. Parce que si vous voulez faire ce métier, c'est pour vivre ces moments-là.
Je pense que pour ceux qui ne sont pas journalistes, ça peut paraître indécent.
Thomas Legrand et Michel Moutot de l'AFP, vous pensez que c'est indécent, Julien Belvert ?
Non, pas du tout. Merci à eux d'ailleurs de reconnaître ça. En fait, ils nous expliquent qu'ils ont conscience que l'histoire, avec un grand H, s'écrit avec eux. Et le reconnaître, ce n'est pas non plus, très grave. À l'époque, voilà, on en a beaucoup voulu à David Pujadas de cette réaction. Il faut se remettre dans le contexte. Il arrivait aux 20h de France 2. C'était sa première grande édition. C'était son premier breaking news. C'était normal qu'il ressente une forme d'excitation. Bon, il y avait une caméra qui l'a filmé, mais qui n'était pas excité, entre guillemets, ce jour-là. Je pense que si on mettait une caméra dans toutes les rédactions du monde, l'excitation était la même partout.
On a parlé des morts. Je vais citer le chiffre parce que je ne l'ai pas cité. 2977. Et concrètement, là aussi, c'est un paradoxe. Contrairement à d'autres catastrophes qu'on pourrait citer, on n'en voit quasiment aucun, il n'y a quasiment aucun mort.
Oui, c'est pour le chapitre que je trouve le plus intéressant du doc qui est diffusé ce soir, et moi qui m'a le plus surpris. Il s'appelle « Où sont les morts ?» parce qu'en effet, on ne voit aucun mort à la télévision américaine, on ne voit aucun mort, on ne voit aucun blessé. En fait, c'est un choix éditorial qui est fait par les médias américains. Ça, c'est Laurent Saïm qui va nous l'expliquer très précisément ce soir. Et il y a Michel Moutot aussi qui va nous expliquer pourquoi les morts, on ne les voit pas au pied des tours.
Dites-le, expliquez-le.
Bah, je ne veux pas l'expliquer parce que je trouve que Michel Moutot l'explique super bien. Mais il va nous expliquer pourquoi on ne voit pas des brancards, pourquoi on ne voit pas des pompiers qui sortent des corps des décombres. En revanche, le choix en France a été différent. C'est-à-dire que France 2 et France 3 ont diffusé des images de ces personnes qui sautent des tours pour échapper aux explosions, pour échapper aux incendies.
Parce que ces images, ces petits points noirs dont on peut découvrir en les agrandissant que sont des silhouettes humaines, ces images-là n'ont jamais été montrées aux États-Unis.
En tout cas, pas dans les premiers jours.
Le 12 septembre, évidemment, les journaux du monde entier font la une sur l'attentat. C'est le jour d'après. Vous présentez à des journalistes les unes, évidemment, du Monde, du Figaro, du Parisien, de Libération. Quelle une vous a marqué vous-même, Julien Belvert ?
Bah moi, je fais le choix. Je crois que c'est Thomas Legrand qui a choisi cette une, celle de Libération, qui est hyper sobre, en fait. Pas de titre, seulement la date, 11 septembre 2001. En plus, c'est une couverture, comme Libération aime les faire, qui s'étale sur la quatrième de couve et la première. Pour moi, c'est celle que je retiens.
Il y a des images inédites, ou quasiment inédites, en tout cas, que je ne connaissais pas, dans votre doc, Julien Belvert. Il y a quelques années, c'est un journaliste américain, il s'appelle Mark Laganga. Il travaillait pour CBS à l'époque. Il a diffusé un rush exclusif et restauré du 11 septembre. On le voit notamment aller au plus près des deux tours. Déjà, comment se fait-il que ça n'ait pas été diffusé plus tôt, et comment vous l'avez récupéré, cette image ?
Ces images-là ont été diffusées aux États-Unis en partie, mais pas les 26 minutes. Bon, évidemment, on ne diffuse pas les 26 minutes ce soir, mais ces images-là ont été diffusées bien après le 11 septembre. Bon, ce sont des images qu'on a découvertes plusieurs mois après, le temps qu'elles soient retrouvées, qu'elles soient restaurées, parce qu'elles avaient été un petit peu aussi abîmées. Et c'est des images qui sont totalement hallucinantes, puisque ce sont des images qui sont tournées au pied des tours, alors que pendant des heures et des heures sur les chaînes d'information, on ne voyait que des images en plan large de ces tours. On ne savait pas ce qui se passait réellement au pied des tours. Et donc, il va assister à l'effondrement des tours. Et les images sont absolument dingues.
Mais c'est même complètement lunaire. On dirait presque du cinéma expérimental. On voit ces tours qui s'effondrent. On voit une couche de poussière totalement dingue. Il avance de plus en plus vers l'endroit de l'impact.
Il a
une seule question. Et il dit, Qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Et il avance de témoin en témoin, de pompier en secouriste, en disant qu'est-ce qui se
passe ?
On se dit, ce type est complètement dingue.
Et à un moment, il est totalement recouvert par les cendres, totalement recouvert par les décombres. Lui-même ne sait pas s'il va s'en sortir. Et là, il y a une espèce de séquence qui va durer 3-4 minutes.
Ouais.
Une séquence de noir où on n'entend que les bruits des pompiers, sa respiration, les gens étouffés par la poussière. Donc cette séquence, on la diffuse pas en intégralité parce qu'elle est un peu longue, mais on diffuse bien 2 minutes ce soir.
Julien Belver, vous entamez votre 5e saison à Quotidien. Vous êtes en quotidien, justement, dans Quotidien, si j'ose dire.
Oui.
Ce document diffusé ce soir, c'est votre premier prime. Il y en aura d'autres en projet. Vous attendez les chiffres d'audience de demain pour savoir
qu'il
ça.
Qu'il y en aura d'autres, évidemment. L'idée, c'est d'en faire 2-3 par
en
an.
En gros, il faut dépasser les 600 000 téléspectateurs.
Ouais, moi, c'est mon objectif pour ce soir. On verra. Bon, le temps est très ensoleillé, donc peut-être que les gens préféreront aller en terrasse, mais on espère qu'il va faire de gros orages et que tout le monde va rentrer à la maison. Mais oui, idéalement, on aimerait bien faire plus de 600 000 téléspectateurs. Et si c'est le cas, il y aura d'autres numéros.
Comment se portent les audiences de Quotidien ? Je veux dire pourquoi je vous pose la question, parce que Yann Barthès s'est fait une religion de jamais en parler, mais vous tweetez régulièrement sur le sujet.
Oui, moi j'en parle.
Comment sont les audiences de Quotidien ?
Moi, je suis journaliste média, donc évidemment, les audiences, je les regarde. La rentrée se passe plutôt pas mal. Vous l'avez vu, il fait très beau dehors, donc il y a un peu moins de monde devant la télévision depuis la rentrée, mais Quotidien reste leader.
Non, pas d'audience, c'est les 3 talk shows qui se tirent là. Je vais pas être.
Quotidien leader, donc c'est le plus important.
Devant
Touche pas mon poste
et devant C'est à vous.
Et Touche pas mon poste sur
Et on va citer également 28 minutes parce que c'est aussi un
sujet qui marche très bien d'ailleurs.
Merci beaucoup Julien Belver. Je rappelle, TMC ce soir, 21h Média le 11 septembre 2001, c'est à 21h15 en prime. Merci d'avoir été avec nous en direct Julien Belver.